Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, mais c'est dimanche, donc la commémoration des fidèles défunts, ce sera demain. Néanmoins, je voulais vous parler de la mort. Il y a dans le monde actuel et de plus en plus une relation assez paradoxale avec la mort. Ces jours-ci, les hommes jouent littéralement à évoquer la mort à travers diverses célébrations qui aujourd'hui sont complètement paganisées. Bien sûr, on a cette fameuse Halloween qui est de plus en plus diffusée dans notre pays, alors que ce n'est pas du tout une tradition, entre guillemets. Bon, déjà, c'est pas une bonne tradition, pour le coup. D'autres célébrations viennent s'ajouter maintenant, des célébrations, j'ai vu ça même en Haute-Saône, vous voyez, chez nous, le jour des morts, tel que célébré au Mexique, donc avec toutes ces personnes qui se déguisent en squelettes et qui se barbouillent le visage, etc. Alors, il faut savoir qu'au Mexique, c'est une célébration qui a des origines païennes, effectivement, mais c'est christianisé. C'est-à-dire que il y a tout ce folklore, bien sûr, mais ce folklore est accompagné de véritables prières catholiques pour les défunts. Donc que ce soit le jour de la Toussaint ou bien sûr le 2 novembre. Ce qui n'est pas du tout le cas, je pense, dans nos pays. On en fait une célébration de la mort, on se déguise en squelette, etc. On trouve ça très très amusant afin d'éviter en fait la réalité de la gravité finalement de la mort. Donc attention, on importe dans nos pays ce genre de tradition. Pour certaines, donc la tradition mexicaine était quand même fortement christianisée. Maintenant, on la déchristianise et on en fait une espèce de carnaval de l'automne. Et ça, ce n'est pas sain. Il nous faut donc, mes bien chers frères, nous autres chrétiens catholiques, avoir une relation qui est saine avec la mort. Pas une relation comme maintenant. On essaye la plupart du temps de la cacher, de la nier. On ne veut même plus employer le terme « mort ». On le voit notamment dans les avis de décès. Les gens ne sont plus, ils n'existent plus, volatilisés. Les gens nous ont quittés, ils sont partis, ou comment, on n'en sait rien. Ils ont disparu aussi. Mais on n'emploie plus le terme de mort. Par contre, là, au moment de la Toussaint, fêtons les morts, faisons la Java et dansons déguisés en squelette. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement paradoxal la relation que nos contemporains ont avec la mort. Par conséquent, nous devons montrer, nous autres, une relation saine avec la mort. Déjà l'appeler par son nom, la mort, voilà, et savoir ce qu'elle est. Il ne s'agit pas de partir, de disparaître, de ne plus exister, ou d'exister uniquement dans le cœur de ceux qui nous aimaient, et tout le blabla sentimentalo, romantico, débilo, tout ce que vous voulez. Bref, non, c'est pas ça. La mort, c'est une réalité. Voilà. Déjà, c'est très important. Je vous faisais part hier du problème de la relation avec la sainteté. Donc la sainteté du point de vue chrétien, c'est-à-dire réaliste, du point de vue moderniste, subjectiviste. En fait, on va retrouver le même schéma vis-à-vis de la mort. Au lieu de regarder la réalité en face, eh bien, on va essayer de l'éviter d'une manière ou d'une autre, en riant dessus, en n'en parlant pas, ou en édulcorant cette réalité. Malheureusement, bien sûr, l'un, un jour ou l'autre, nous sommes confrontés à cette réalité. Alors, qu'est-ce que la mort ? Vous le savez, tous les enfants du catéchisme le savent. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Bien sûr, ceux qui ne croient pas en l'existence de l'âme, alors notez bien qu'il ne s'agit pas de croire en l'existence de l'âme, parce que l'existence de l'âme, c'est une réalité métaphysique, c'est-à-dire on peut démontrer littéralement, scientifiquement, par un raisonnement, que l'âme humaine existe et elle est un esprit immortel, fait pour être rattaché à un corps. Déjà, les philosophes antiques avaient pu, comme Aristote, avaient pu définir l'âme humaine. Platon également démontre l'existence de l'âme humaine, justement par sa capacité à abstraire et à avoir des idées qui sont purement spirituelles. Et une faculté qui a des outils, des idées purement spirituelles, ne peut être que spirituelle, parce que les facultés sont proportionnées à leur objet. Si l'objet de notre intelligence et de notre volonté est immatériel et spirituel, eh bien, notre intelligence, notre volonté sont spirituelles. Si notre intelligence et notre volonté sont des facultés spirituelles, elles ont leur place dans un sujet spirituel. Ce sujet spirituel, c'est ce qu'on appelle l'âme humaine. Et étant donné que l'homme est corps et âme, là aussi, hein, c'est le réalisme, nous avons un corps, eh bien, notre âme, ce n'est pas un pur esprit comme celui des anges. Notre âme, c'est un esprit qui est fait pour être dans un corps. Et là, on comprend la mort. Et là, on comprend que la mort est effectivement un phénomène violent, une séparation. Notre âme, elle est faite pour être dans notre corps. Et notre corps a vie uniquement par notre âme spirituelle. Donc, la mort, c'est ça, c'est cette séparation entre notre âme et notre corps. Notre corps, il reste sans vie. C'est un cadavre, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on l'appelle. On doit le respecter justement parce que ce cadavre, il a porté un esprit qui a pu être uni à Dieu par la grâce sanctifiante, et un corps, qui va, le corps, lui, il va retrouver son esprit, son esprit au moment de la résurrection des corps, c'est-à-dire à la fin du monde. C'est la foi catholique. C'est ce que nous chanterons dans quelques instants dans le credo, hein, juste à la fin. Il y a ces vérités des fins dernières. Donc, nous croyons à cela. Et donc, nous croyons à la mort, et la mort comme un phénomène violent. Donc, notre corps, il doit être enterré, non pas brûlé ou autre chose. Ça aussi, c'est la pratique catholique permanente. Hein, et là encore, le modernisme a tout renvoyé à un niveau psychologique et subjectiviste. Ah, on a le droit de brûler les morts s'il n'y a pas une connotation anti-catholique. C'est purement subjectiviste. Donc si on pense quand même que l'âme existe, eh ben on peut brûler. Non. Non, la pratique de l'Église a toujours été d'interdire la crémation. En tant que pratique païenne, en tant que non respectueuse de cette vérité qu'est la résurrection des corps, justement, à la fin du monde. Donc il y a un côté effectivement symbolique, le côté de la mort qui est une espèce de sommeil. C'est pour ça qu'on nous met dans des beaux cercueils avec du capiton, un petit oreiller, etc. On n'est pas obligé de s'embêter avec tout ça. Hein. Les moines autrefois, une simple planche, quelques clous pour que ça tienne, et puis dans la terre, et hop. Et voilà. Après, la nature fait son œuvre, et puis le bon Dieu, il fera son œuvre de réunir tout ça à la résurrection. Mais donc, il faut garder cela parce que ça fait partie de la pratique chrétienne permanente et renvoyer à ce côté psychologique et subjectif, eh bien, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il faut rendre les gens réalistes, objectifs et non pas subjectivistes. C'est pas eux qui décident si on doit brûler les morts ou pas les brûler. C'est à l'Église parce que tout simplement c'est une réalité qui dépasse les simples individus. Et derrière, il y a objectivement cette mentalité païenne. Quant aux questions soi-disant écologistes, pardon, mais vu l'énergie qu'il faut dépenser pour brûler un bonhomme qui est composé à 70% d'eau, c'est pas du tout écologique, hein, et beaucoup plus écologique de nous enterrer tout simplement. Donc, l'âme, elle, bah vous le savez, je vous fais pas le topo, elle est jugée, il y a trois options, enfin deux en fait. Le ciel, l'enfer, hein, le purgatoire, bon, c'est l'antichambre du ciel, mais c'est quand même un lieu de souffrance très 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 forte, donc on ne désire pas le purgatoire en tant que tel, sinon dans sa relation évidemment au ciel, en fonction de la vie que nous aurons menée et de l'état dans lequel nous sommes trouvés à notre mort, c'est-à-dire nous sommes en état de grâce, soit nous ne le sommes pas. Si nous sommes en état de grâce, soit nous avons encore des péchés à réparer, d'une manière ou d'une autre, leurs conséquences, et à ce moment-là, nous passons par le purgatoire, soit nous n'en avons pas, et à ce moment-là, nous allons directement au ciel. Soit nous ne sommes pas en état de grâce, et là, on va en enfer. Point barre. Là aussi, c'est objectif, c'est la foi catholique qui nous le dit, c'est pas compliqué à comprendre. Les saintes écritures sont extrêmement claires sur toutes ces réalités, même d'ailleurs sur le purgatoire, contrairement bien entendu aux idées répandues, encore une fois, par les modernistes, où le purgatoire c'est une invention de l'Église, etc., etc. Non, c'est pas une invention de l'Église. Les sources de la doctrine du purgatoire se trouvent dans la Sainte Écriture, où déjà, on le voit à l'époque des frères Maccabées, il y a des prières qui sont effectuées pour les défunts, spécifiquement pour des personnes qui sont mortes, et en réparation de leurs péchés. Et donc, on a déjà cela. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, aussi, on a des sources, et surtout, on a la pratique constante de l'Église, qui est un argument de foi, cette pratique de prier à la fois pour les vivants et pour les morts. S'il n'y avait pas de purgatoire, la prière pour les morts serait inutile. Parce que c'est inutile de prier pour quelqu'un qui est au ciel, il est dans la béatitude. C'est inutile de prier pour quelqu'un qui est en enfer, parce qu'il est en enfer. Donc si on prie pour les morts, c'est parce que il y a ce lieu qui est le purgatoire. Voilà, c'est tout. Donc, voilà ce qui se passe. Donc de notre point de vue, évidemment, il y a le point de vue de la perte, parce que c'est la séparation de l'âme et du corps, la mort, et c'est aussi pour nous la séparation des personnes qui meurent, alors que nous restons vivants. Donc il faut réfléchir à ce double aspect. La mort est inéluctable. C'est tout. Maintenant, il y a aussi les gens qui cherchent à tromper la mort, hein, les Elon Musk et compagnie, les doctrinaires du transhumanisme qui prétendent télécharger notre conscience dans une clé USB, une carte mémoire, un disque dur ou je ne sais combien de pétaoctets, selon évidemment le degré d'intelligence. Je pense que Elon Musk prévoit beaucoup de stockage pour sa propre intelligence. Certains, bon, une petite clé USB, peut-être que ça suffira. Non. Trêve de plaisanterie, évidemment, ça ne se télécharge pas. Hein, tout simplement parce que notre âme est spirituelle. Donc même si notre âme, elle opère par notre corps, et notamment par notre cerveau, eh bien, c'est notre âme qui opère, et pas notre cerveau. Bien comprendre cette réalité. Donc, il est impossible de télécharger notre conscience ou quoi que ce soit, et après de le remettre dans un corps robotique, qui n'aurait rien, évidemment, d'humain. Bref. Ça, c'est le fantasme de certaines personnes et du matérialisme extrême dans lequel notre société tombe. Ce matérialisme qui va même essayer de considérer l'esprit, l'âme, comme quelque chose de matériel. On va employer les termes d'énergie, etc., des termes complètement vagues, jamais bien définis. Et pour cause. Tandis que vous le voyez, dans la philosophie aristotélico-thomiste et donc dans la foi catholique, donc dans la réalité, les termes sont bien définis. Qu'est-ce que l'homme, donc composé d'une âme et d'un corps, qu'est-ce que l'âme? Un esprit immortel qui est fait pour être uni à un corps, etc. Qu'est-ce que la mort, la séparation de l'âme et du corps, tout est clair. Donc, la mort est inéluctable. Par conséquent, ça sert à rien de fuir. Mais en même temps, il ne faut pas vouloir tromper la mort, comme les transhumanistes, ou encore affronter la mort avec témérité, hein, comme les partisans des sports extrêmes et compagnie. Il s'agit d'avoir une relation saine avec la mort, donc que ce soit par rapport à notre propre mort, ou que ce soit par rapport à la mort des êtres proches. Donc comment avoir une relation saine? Avoir une relation saine, c'est d'abord avoir à l'esprit ses réalités. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort pour le corps? Ça, on le sait. Qu'est-ce qu'il se passe après la mort pour l'âme? Ça, on le sait aussi. Jugement particulier. Là aussi, hein, faut arrêter les fantasmes ou les images qui sont données aux enfants par rapport au jugement particulier. Hein. Il n'y aura pas un ange qui se balade avec une balance, et puis vous n'aurez pas un avocat à côté de vous, et puis Dieu habillé en juge, etc. Non, stop, faut arrêter. C'est l'âme, c'est spirituel, et ça se passe dans un niveau qui est hors du temps, comme nous le connaissons. Le temps humain, il est essentiellement corporel. Par conséquent, le jugement de Dieu, en particulier, ça se passe en un clin d'œil, si j'ose dire. En un instant, on est fixé dans notre éternité. Donc, il faut avoir à l'esprit toutes ces réalités. Ne pas être dans le déni par rapport à la mort. Ça nous arrivera tous. Soit de mourir, soit d'être confronté à la mort de personnes qu'on aime particulièrement, puisqu'on doit aimer tout le monde en tant que chrétien, mais on doit aimer certaines personnes plus que d'autres, hein, c'est l'ordre de la charité. Donc c'est normal que nous soyons affectés davantage par la mort de telle ou telle personne proche. C'est naturel, c'est normal. Il n'y a pas à lutter contre ça. Il n'y a pas à être dans le déni. Mais il ne faut pas non plus se révolter ou se bloquer avec des propos, ah ben c'est trop injuste, etc. C'était une bonne personne, donc comme si ceux qui doivent mourir, c'est juste les gens méchants, mauvais, etc. Hein, vous savez, c'est aussi une drôle de mentalité et puis des réflexions qui en fait n'ont absolument aucun sens, surtout au regard de la foi catholique. La mort est un phénomène qui est juste. C'est juste parce que c'est la rançon du péché. Nous sommes tous affectés par le péché, eh bien, nous méritons tous de mourir parce que nos premiers parents ont péché, effectivement. Hein, ça, c'est le point de vue surnaturel. Mais en plus, c'est juste parce que c'est juste naturel. À partir du moment où nous avons un corps, eh bien, ce corps, il est corruptible. S'il est corruptible, eh bien, à un moment donné, il devient incapable de porter notre âme pour X raisons. Donc, il n'y a pas d'injustice à la mort. C'est un phénomène qui, à la base, est naturel. Le bon Dieu avait voulu en préserver l'humanité d'une manière préternaturelle, au-delà de la nature. Il avait donné ce don à nos premiers parents, et ils l'ont perdu pour toute l'humanité, parce que c'était nos premiers parents, justement. Voilà, je ne vais pas vous faire non plus toute la doctrine du péché originel. Mais donc, faut arrêter de dire « Ah ben c'est injuste ». Non, c'est pas injuste. Et puis un catholique ne peut pas dire ça. Il n'y a rien d'injuste. C'est juste comme ça. Le corps, il est corruptible, il est mortel. Donc, il faut s'abstenir en tant que catholique de proférer de tels propos et d'avoir de telles pensées. Ça, c'est la réaction de foi. La réaction de foi, c'est donc ni le déni, ni la fuite, ni le blocage, ni la révolte, c'est l'acceptation. On ne trouvera la paix dans le deuil que par l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi au niveau de la foi? C'est la soumission à la volonté divine. Que venons-nous de chanter au début de la messe? In voluntate tua domine. Très très belle parole. Dans votre volonté sont posées toutes choses, Seigneur. Voilà. Et le psaume qui accompagne, je pense, il me semble que c'est du livre d'Esther, le psaume qui accompagne, c'est le début du psaume 118, le grand psaume, le plus grand, le psaume de la gloire. Beati Immaculati in via qui ambulant in legge domini. Bienheureux ceux qui sont immaculés sur le chemin sans tache, qui marchent dans la loi du Seigneur. Donc voilà comment nous devons accepter ce phénomène de la mort. C'est difficile quand on y est confronté parce que il y a cette séparation, mais nous avons la foi. Et quand nous avons la foi, nous devons nous comporter comme ayant la foi. Nous devons penser comme ayant la foi. Nous devons ressentir comme ayant la foi. C'est un effort. Effectivement. C'est un effort, mais nous avons les grâces de Dieu pour faire cet effort. Donc l'acceptation, c'est la soumission à Dieu. Si Dieu veut nous prendre tel ou tel proche, que sa volonté soit faite. Le plus important pour nous, c'est que cette personne soit morte dans le Seigneur. Là, effectivement, il faut y travailler. Et là, effectivement, nous devons travailler aussi à ce que nos proches meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire avec la grâce de Dieu. À partir du moment où nous avons cette réalité sous les yeux, de mort dans le Seigneur, on a une grande consolation par rapport à la mort de nos proches. Quand il n'y a pas cette réalité, il y a toujours l'espérance. Il y a l'espérance parce que l'après la mort, Eh bien, il y a cette part de mystère. Il y a cette part de mystère parce que nous autres hommes, nous ne pouvons pas juger, sonder les reins et les cœurs. Nous pouvons juger sur des attitudes extérieures. Et il est évident que la personne qui aura toute sa vie et jusqu'à la fin rejeté Dieu, ben, effectivement, il y a des risques qu'elle ne soit pas au ciel. Donc on ne canonise pas les gens, on ne les met pas en enfer. Il y a cette part d'incertitude, effectivement, et cette part d'incertitude peut nous permettre d'espérer, tout simplement. Donc acceptation, soumission à Dieu, acceptation de ce mystère des âmes. Après, il n'y a pas de mystère hein, sur le jugement de Dieu. Hein. On ne va pas édulcorer la foi catholique comme le font les modernistes en disant que tout le monde va au paradis, sauf personne pratiquement pour eux. Peut-être Hitler, tu vois, c'est tout. Hitler, il est tout seul en enfer en fait, avec les démons. Ça, pratiquement, c'est la doctrine actuelle. Hein, soyons honnêtes. Sauf que ça correspond pas du tout à la doctrine catholique, à l'enseignement de l'Église. Donc, pas d'optimisme béat, tout le monde se sauve, il suffit d'être honnête, d'être gentil avec tout le monde, d'être sincère, le truc qui veut rien dire, ou pas de pessimisme. Ah, c'est le petit nombre des élus, on va tous aller en enfer. Non, quand même pas. Nous chrétiens, on est au ciel, tous les autres sont en enfer. Pas du tout. C'est le réalisme, une fois de plus. Hein. Ce réalisme de la foi catholique qui nous fait faire notre salut avec crainte et tremblement, qui nous permet d'accepter avec soumission la mort de nos proches, et surtout qui nous permet d'avoir cette mémoire de nos proches. Il ne faut pas craindre, quand on a un deuil, de se dire, eh bien, de se culpabiliser, je vais oublier cette personne, etc. Il ne faut pas le craindre à partir du moment où on est chrétien, parce que quelle mémoire font les chrétiens ? C'est pas de consulter des photos, de se rappeler des souvenirs, etc. C'est pas mauvais, hein, bien entendu, d'entretenir même des souvenirs des personnes qui nous ont quittés. Mais le catholique, c'est quoi son souvenir des morts ? C'est de prier pour eux. Et de prier chaque jour pour eux. Dans la Sainte Messe, il y a ce memento des défunts. Donc on prie spécifiquement pour les défunts dans la messe. Et dans toutes les prières de l'Église, après chaque heure du bréviaire, l'Église nous fait réciter le petit verset « Fidelium animé per misericordiam Dei requiescant in pace ». Hein, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et certains ont cette pratique au cours du chapelet, c'est très bien, après chaque dizaine, de dire aussi ces paroles. Donc c'est dans la tradition tout à fait de l'Église. Donc c'est ça, ne pas oublier nos défunts. C'est de prier pour eux et de prier chaque jour. Peut-être qu'ils sont au ciel, peut-être qu'ils sont au purgatoire, peu importe. Là, pour le coup, il faut que nous nous forcions à faire abstraction, de savoir où est-ce qu'ils sont. Ben, on n'en sait rien, donc stop, on arrête de réfléchir sur ce qu'on ne sait pas. Là aussi, il faut se forcer à arrêter de réfléchir. À un moment, il faut appuyer sur le bouton « off ». De la machine, et puis je sais pas, et puis non, on arrête, on sait pas, c'est tout, ça sert à rien, ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas, et donc si on ne le sait pas, on fait ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à prier, et donc on prie tous les jours. Voilà, c'est ce que dit saint Augustin en particulier par rapport à la mort de sa mère, sainte Monique, qui est canonisée aujourd'hui, bien sûr, Et donc on a plus à prier pour le repos de son âme, mais donc on voit chez lui cet esprit de foi, même s'il est conscient de la sainteté de sa mère, de tout ce qu'elle a subi, eh bien il continue à prier parce que c'est son devoir et parce qu'il y a cette incertitude. Donc voilà, mes bien chers frères, comment avoir une attitude droite et juste par rapport à la mort. Donc concrètement, pour nous autres, penser à la mort, notre propre mort, et donc penser à notre propre vie, se maintenir dans la grâce sanctifiante, c'est le plus important, je le répète. Et si on n'y est pas, il faut se confesser, je le répète aussi. Et même si c'est difficile, il faut faire l'effort. Le prêtre, il est là pour ça. Il n'est pas là pour vous casser du sucre sur le dos. Parfois, vous gourmandez quelque peu, si nécessaire, mais il est surtout là pour vous pardonner vos péchés et pour vous aider, le cas échéant, à vous confesser le mieux possible. Par rapport à ceux qui nous ont quittés, il faut garder ce souvenir, mais ce souvenir dans la prière. Si nous voulons trouver la paix dans le deuil, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir, agir, penser avec foi. Agir, penser avec foi, c'est être dans cette acceptation de la volonté de Dieu. D'ailleurs, se rebeller, et ça change rien. Ça va pas ressusciter les morts. Ça va rien changer. Tout ce que nous faisons, c'est nous ronger tout simplement de l'intérieur pour rien. C'est de l'autodestruction. Donc, il faut être dans l'acceptation. Cette acceptation, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une négation. Non, c'est penser paisiblement aux êtres chers qui nous ont quittés et surtout, et avant tout, et c'est ce que l'Église nous rappelle spécialement en ces jours saints, en ce jour des fidèles défunts, la commémoration des fidèles défunts, en ce mois de novembre spécialement consacré à la prière pour les fidèles défunts, eh bien, c'est de nous montrer quel est notre devoir, prier pour les défunts. Prier non seulement et d'une façon très particulière pendant ces jours saints, mais prier aussi de façon quotidienne, c'est important. Et apprenez cette prière pour les défunts à vos enfants. C'est pas la peine de se dire « Ah, ils sont jeunes, ils comprennent pas, etc. » Ils comprennent pas tout, certainement. Et ils n'ont pas été peut-être confrontés, et on ne leur souhaite pas trop jeunes à cette mort, bien entendu. Mais ça fait partie des réalités de la vie, si j'ose dire. Par conséquent, il faut leur apprendre aussi cette réalité, quelle elle est, et leur apprendre surtout à prier pour les défunts. Non pas canoniser les gens, les mettre au ciel, oui, ta grand-mère, elle te voit du ciel, machin. On n'en sait rien, c'est pas le problème. Le problème, c'est notre devoir, et notre devoir, c'est de prier, donc il faut aussi leur apprendre à prier pour les fidèles défunts. Voilà, mes chers frères, comment nous sortirons de cette relation malsaine qui se développe de plus en plus vis-à-vis de la mort, qui risque de nous infecter, et voilà comment avoir une relation saine à la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.